RFI.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos, d'antemano muchas gracias.
Évidemment, ça n'attire pas autant qu'un concert de 24 heures organisé par Al Gore depuis la Tour Eiffel, mais c'est la base de notre savoir. Pendant deux jours, plus d'une centaine de scientifiques se sont réunis dans la prestigieuse université de la Sorbonne à Paris pour réfléchir autour d'une question sur le thème des changements climatiques. Que reste-t-il à découvrir? Le forum du CNRS, le Centre français de la recherche scientifique, a organisé de nombreux débats ouverts au public sur le rôle des pôles dans les changements climatiques, les enjeux de la ville durable ou encore les effets du réchauffement sur les océans. Bonjour Catherine Larère.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'une des premières chercheuses à avoir introduit l'éthique de l'environnement en France. Alors vous, c'est le grand luxe, vous avez une carte blanche à ce forum du CNRS. Alors qu'est-ce que c'est l'éthique de l'environnement ?
C'est l'idée qui est à la fois ancienne et pas très explicitée que nous avons avec la nature des rapports moraux, que nous pouvons avoir des devoirs à l'égard de la nature et que nous avons un compagnonnage avec la nature. Donc nous ne traitons pas la nature uniquement comme un objet ou comme des ressources ou comme un endroit où on rejette des déchets, mais que il faut voir ce qu'on lui fait. Alors ça s'est posé d'abord localement dans les rapports avec un environnement restreint, c'est devenu maintenant un problème global et la conséquence c'est que la nature c'est la Terre et la Terre inclut les hommes, donc les hommes font partie de l'éthique environnementale.
Donc on voit bien que le terrain est vaste et évidemment c'est difficile de faire entendre cette voix-là, mais en ce moment il y en a bien besoin. Nous allons y revenir à vos côtés, Gilles Butch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur de l'unité mixte internationale environnement, santé, société dont le siège est à Dakar. C'est une unité très importante puisque vous dirigez plus de 60 chercheurs.
66 chercheurs.
66.
Et enseignants-chercheurs.
Spécialisé dans différents domaines.
Spécialisé dans beaucoup de choses, parce que c'est une équipe qui est à la fois une équipe nord-sud partagée, c'est à la fois une équipe vraiment interdisciplinaire, puisque nous avons des sciences humaines, des médecins, des chimistes, des écologistes, en particulier végétaux, et tous ensemble, on essaie de construire effectivement un savoir un petit peu renouvelé, on va dire.
Nord-sud et sud-sud, hein, puisque vous êtes basé au Sénégal, mais vous travaillez aussi avec des chercheurs.
Et nous travaillons avec le Burkina et le Mali.
Voilà.
Tout à fait.
Et alors, vous avez décidé d'intervenir au forum du CNRS sur l'agriculture face aux nouveaux enjeux écologiques. Alors, j'imagine que ces enjeux, ce sont essentiellement les conséquences des changements climatiques.
Alors, absolument. Alors, d'abord, c'est l'agriculture avec un petit A, pas avec un grand A, parce que c'est au niveau des populations, c'est du local, on n'est pas dans le global. Effectivement, le Sahel est touché par des crises climatiques qu'on connaît bien depuis 1973 et ça a eu des impacts extrêmement importants, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les populations qui y vivent.
Alors, quelles sont les conséquences déjà perceptibles? Vous parlez de 1973, vous faites allusion aux grandes sécheresses.
Absolument.
Mais est-ce qu'on pouvait déjà parler à l'époque des conséquences des changements climatiques? Et est-ce qu'on sent de plus en plus dans cette émission, on reçoit beaucoup de chercheurs qui nous parlent par exemple de la modification du cycle des pluies, de périodes de sécheresse de plus en plus longues. Est-ce que ces choses-là,
c'est
vous les
ressentez? C'est exactement ça, c'est-à-dire que la période des pluies dure moins longtemps, les pluies arrivent plus tardivement. Et ça a des conséquences qu'on commençait en 1973. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, vous aviez, c'est une zone d'élevage extensible, et vous aviez avant une agriculture d'hivernage, dite pendant la mousson. Il pleut, et à ce moment-là, on cultive un certain nombre de plantes, en particulier le niébé, l'aubergine sauvage et la pastèque. Et avec le dérèglement climatique, eh bien, ils n'ont plus assuré ces productions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas perdre trop de pouvoir d'achat, entre guillemets? Eh bien, ils ont élevé des petits ruminants, dont les chèvres, qui est une catastrophe écologique.
Parce que ça mange tout.
Parce que ça mange tout. Et surtout, les jeunes poussent. Et c'est ça le vrai fléau. Donc, ce qu'on essaye, dans le cas de la Grande Muraille Verte, c'est non seulement de restructurer un environnement végétal, et ça donne des ressources premières pour ces populations. On va essayer de leur faire faire un peu moins d'élevage et un petit peu plus d'autres choses. Et surtout, ça permet, grâce au système de forage qui existe, de pratiquer une agriculture qui, en réalité, rejoint ce qu'ils faisaient avant, mais sous une forme un petit peu plus moderne, à savoir faire des jardins polyvalents de plus en plus, et les femmes d'éleveurs se mettent à faire ce type d'agriculture.
Voilà, donc on comprend bien pourquoi vos recherches sont cruciales en Afrique de l'Ouest, où l'essentiel de la population dépend pour survivre de cette agriculture familiale. Mais c'est un défi mondial, comme nous l'a expliqué dans C'est pas du vent Monique Barbu, qui est la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte justement contre la désertification.
Nous parlons de 2 milliards d'hectares de terres dégradées. C'est un montant extrêmement important, mais cela n'a d'importance que si on le regarde en perspective. Si vous prenez par exemple l'horizon 2050, dont nous parlons tous, nous savons que nous serons 9,2 milliards d'habitants sur cette planète. Et donc pour nourrir ces 9,2 milliards d'habitants, nous allons avoir besoin d'augmenter notre production alimentaire de 75%. Comme aujourd'hui, 99% de toutes les calories que les humains avalent viennent de la Terre, cela veut dire que donc pour augmenter la production alimentaire de 75%, il faut, à partir d'aujourd'hui, jusqu'en 2050, mettre 4 millions d'hectares de terres nouvelles en culture, tous les ans. Or, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Aujourd'hui, ces 4 millions d'hectares de terres dont nous avons besoin annuellement, nous les prenons sur les forêts, sur les zones humides. Et donc, nous accroissons aussi une autre crise qui est celle de la biodiversité. Or, 2 milliards d'hectares de terres dégradées. Restaurer 500 millions de ces 2 milliards permettrait d'assurer la sécurité alimentaire à l'horizon 2050, permettrait de régler en partie la crise de la biodiversité et, par rapport au climat, permettrait de séquestrer un tiers des émissions de gaz à effet de serre tous les ans. Et donc, clairement, nous, aujourd'hui, ce pourquoi nous nous battons, c'est pour que, d'abord, nous réhabilitions ces terres, d'autant que nous gardons en esprit que 80% de la production alimentaire est produite par des exploitations familiales qui nourrissent directement 1 milliard d'individus sur cette planète.
Il existe des techniques simples et peu coûteuses pour refertiliser les sols. Le ZAI, par exemple, explication de Sédou Kabouré qui travaille à la ferme de Guié à 60 km au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso.
La technique du ZAI, on va dire, a été inventée dans les années 70 dans le Yatenga. Et c'est une technique de récupération des sols, parce que ça permet à la fois de garder l'eau et aussi de garder les nutriments pour les cultures. Donc ça consiste simplement, je dis simplement, mais c'est quand même assez dur à mettre en place, ça consiste à creuser un trou d'une dizaine de centimètres de profondeur et d'une trentaine de centimètres de diamètre. Dans ce trou, on dépose du compost à la saison des pluies. On sème.
Et le fait que ce soit dans un trou, ça garde mieux du coup l'humidité, voilà, et ça évite, s'il y a des pluies, que le sol soit lessivé.
C'est l'objectif premier même, c'est cela. De garder l'eau, parce qu'on est dans des zones, en zone sahélienne, il pleut. On va dire, en gros, il pleut assez pour faire pousser des cultures. Mais après, c'est les périodes, les zones de sécheresse, là, dans la saison des pluies, c'est là qui devient problématique, quoi. Par exemple, ici, on a eu 714 mm. On va dire en moyenne 700 mm par an. Mais on peut avoir de mauvaises récoltes parce que simplement, pendant la saison des pluies, il y a eu peut-être 10 jours sans pluie.
Monique Barbu, je rappelle que vous êtes la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. C'est ce genre de technique qu'il faut vulgariser, des techniques simples, pas chères.
Tout à fait, ce sont des techniques extrêmement simples. Donc vous avez eu un exemple ici, il y en a d'autres. J'ai été moi-même par exemple visiter en Chine des énormes projets. Il y a en particulier une initiative qui s'appelle le plateau de Leus, 4 millions d'hectares qui ont été restaurés uniquement par des techniques paysannes qui sont diverses et variées, et le gouvernement chinois estime aujourd'hui que ce projet de réhabilitation d'agroforesterie fait par les hommes a permis de sortir 6,7 millions de personnes de la pauvreté. Et donc, les techniques, elles sont simples, elles sont peu coûteuses. On considère qu'en moyenne, le coût d'un hectare à la restauration, c'est moins de $200 l'hectare. Donc, on est sur des choses à l'échelle humaine. Et si vous les comparez à d'autres coûts, Laissez-moi par exemple vous dire que aujourd'hui un réfugié qui arrive dans un camp en Italie coûte aujourd'hui à la communauté internationale 35 euros au jour. Moins d'une semaine de camp réfugié vous permet de restaurer un hectare.
Gilles Butch, comment réagissez-vous à ces propos de Monique Barbu?
Tout à fait, extrêmement intéressant, et c'est un peu la réalité. Et effectivement, il faut trouver des solutions qui permettent aux populations de rester sur place, de vivre dans de bonnes conditions, d'avoir une qualité de vie, ça on oublie de le dire, que ce soit en termes alimentaires, que ce soit en termes d'activité économique, que ce soit en termes de santé, parce qu'il y a aussi des vrais enjeux derrière. Et effectivement, il va falloir prendre des mesures politiques. Alors, qui ne dépendent pas de nous.
Non, ça c'est sûr. Vous assurez le suivi scientifique.
Absolument.
Mais alors donc, vous parliez de cette grande muraille verte, qui est donc ce grand projet, hein, cette ceinture végétale de 7100 km de long.
Exactement.
Vous avez bien dit, il ne faut pas oublier les 100. 7100 km de long sur 15 km de large, de Dakar à Djibouti. Alors où en est
ça fait des millions d'hectares
ce grand projet?
Alors où en est ce grand projet? Ben, je sais pas,
ça traverse 11 pays quand même.
Ça traverse 11 pays. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les pays du Sahel. C'est un peu des pays où il y a la guerre. Donc faire des plantations quand on se base, c'est quand même un petit peu difficile. Et ce qui se passe au Sénégal, à mon avis, est un petit peu emblématique, parce que c'est un peu une vitrine. On essaye de montrer qu'est-ce qu'on peut faire, si ça marche, quelle est la route à suivre pour les autres. Et on espère que les autres vont évidemment s'en inspirer. Il y a des erreurs qui se font, par exemple dans le choix des espèces, etc. Il faudrait que les autres en profitent. Mais vous avez parlé des espèces plantées, c'est très intéressant. Les espèces plantées ont été retenues pour deux qualités. La première, c'est de pouvoir survivre, donc pouvoir vivre entre 200 et 400 mm d'eau par an, ce qui est quand même pas beaucoup. Je vous rappelle que Nice, c'est 2 mètres d'eau par an.
Dans le sud de la France.
Dans le sud de la France, c'est vraiment pas beaucoup. Et d'autre part, il faut aussi que les populations les connaissent ces arbres, pour se les approprier, pour les utiliser. Par exemple, on plante le Balanites aegyptiaca, ou on plante l'acacia sénégal. C'est des arbres qui sont bien connus par les populations. Il y a des fruits pour le Balanites que les gens consomment. Il y a de l'huile dans l'amande, etc. Vous voyez, il y a tout un dispositif économique, proto-économique, on va dire, à disposition des populations.
Et aujourd'hui, vous avez planté quelle quantité d'arbres? Ça concerne combien de familles?
Alors, au milieu, pour le Sénégal, là, parce que c'est pas moi qui plante, hein, l'Agence nationale sénégalaise de la Grande Muraille, nous on regarde si ça pousse. Mmh. L'Agence nationale sénégalaise de la Grande Muraille verte plante 2 millions de plants par an. Mais ce qui ne fait que 5000 hectares. C'est pas énorme. Il y a des moyens qui sont déployés, il y a des hommes qui sont déployés. Pour moi, il faudrait planter 20 fois plus. À ce rythme-là, dans un siècle, je ne sais pas si on aura tout couvert.
Mais d'où l'importance de la volonté politique. Alors je précise qu'Agnès Rougier du service Sciences de RFI est venue vous voir sur le terrain et son reportage sera diffusé mardi prochain justement sur les antennes de RFI. Catherine Larère, avec cet exemple des conséquences des changements climatiques sur l'agriculture en Afrique de l'Ouest, on comprend bien ce paradoxe qui est que le continent africain qui émet moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales est très très impacté. Et c'est là où arrive cette notion de justice climatique que l'on entend souvent d'ailleurs dans les manifestations des ONG. Je pense que ça va être très clamé le 29 novembre à Paris lors de la marche et dans le monde entier pour mettre la pression sur les négociateurs pour la conférence. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de justice climatique?
Une réponse à une injustice majeure qui est que c'est vrai que le changement climatique affecte toute la planète, toutes les populations du globe, mais elle les affecte de façon très inégale et ces inégalités sont des injustices parce que comme vous venez de le dire, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ont le moins contribué au changement qui les affecte et ceux qui en plus risquent d'être mis à l'écart d'un développement ou en tout cas dans un développement qu'il faut redéfinir. Donc il y a une énorme injustice et on peut dire qu'elle se décline en trois idées. La première, qui a le plus contribué, c'est les pays du Nord, c'est l'Occident, Europe, Amérique du Nord. Donc l'idée de responsabilité historique des pays du Nord, c'est la première chose. La deuxième idée, c'est l'idée de mesurer cette responsabilité en termes de dette. Et on parle de dette climatique. C'est un certain nombre d'économistes comme Joan Martínez Allier, par exemple, ou des Indiens comme Anil Agarwal qui ont lancé l'idée, qui est une idée, c'est pour les négociations, pour peser sur l'idée que, ben, disons, le Nord a dépensé sa part d'atmosphère en la surchargeant en gaz à effet de serre. D'où la troisième idée, c'est celle de communaux globaux, que ce sont des biens communs qui sont ainsi appropriés plus ou moins privativement par un certain nombre de pays. Donc autour de ces trois idées, il y a des mouvements qui sont des mouvements politiques pour la justice climatique.
Alors c'est pour cela que depuis 1992, au sein des négociations internationales, il y a cette notion de responsabilité commune mais différenciée. Alors évidemment, ça devient un peu compliqué. Ça sera sans doute encore d'ailleurs écrit dans l'accord de Paris. Mais c'est compliqué parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le pays le plus pollueur, c'est la Chine. Or la Chine, à l'époque, n'a pas pollué, n'a pas eu sa part d'atmosphère, comme vous le disiez. Elle la prend maintenant. L'Afrique est un continent en plein développement, avec pour certains pays des chiffres de croissance très importants. Donc on se dit aussi que c'est une question à solidarité obligatoire, de toute façon.
Alors, il y a cette idée de responsabilité commune. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui engage tout le monde. Et je dirais, la responsabilité, ça touche moins ce qui s'est passé avant que ce qui va se passer. De ce point de vue-là, on peut dire que la Chine, effectivement, n'a pas une responsabilité passée, mais qu'elle a une responsabilité pour ce qui vient, étant donné même qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Tout pays maintenant sait quelles sont les conséquences des émissions de gaz à effet de serre.
Ce qui n'était pas le cas de l'Occident.
Ce qui n'était pas le cas de l'Occident, puisque quand ça commence vers 1850, on n'a aucune idée du changement climatique. Et donc, ce qui permet à certains philosophes de dire, c'est une responsabilité causale, mais c'est pas une responsabilité morale. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet, mais on n'en avait pas idée. Bon. Tout ça se discute. Il y a aussi l'idée de différencier, qui est l'idée de répartir pas de façon égale, parce que si on répartit de façon égale, et bien ceux qui sont les plus démunis seront les plus touchés. Donc ça sera de façon équitable en tenant compte. Donc à la fois du passé, c'est l'idée d'appliquer le principe pollueur-payeur, et de l'avenir, c'est l'idée avancé par quelques-uns, que toutes les émissions se valent pas et qu'il faut faire la différence entre les émissions dites de subsistance qui permettent de vivre et les émissions dites de luxe dont on peut se passer. Disons, les émissions qui permettent qui permettent de produire des denrées agricoles, et puis les émissions qui permettent par exemple de l'air conditionné. J'ai des souvenirs d'Amérique du Nord avec la clim qui se déclenchait. On était à 20 degrés, avec 25 degrés dehors, c'est vraiment inutile, quoi. Donc on peut pas dire, même si ça coûte moins cher de réduire les émissions de base, eh bien il faut que les émissions de base existent, quitte à réduire, même si ça coûte plus cher, les émissions de luxe.
Mais alors aujourd'hui, on voit bien que cette notion de justice climatique est vraiment au cœur des négociations.
Aller au cœur des négociations, tout simplement parce que
vous dites, ce n'est surtout pas la cerise sur le gâteau.
Ça n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est pas quelque chose qui vient en plus. C'est les pays ne signeront pas un accord qu'ils jugent indu. Donc il faut que ils aient l'idée que sinon c'est juste, du moins on va vers la justice. Et c'est là que pose problème aussi bien le différencié que le commun, parce que la solidarité, elle est supposée, elle n'est pas forcément réelle.
D'où ce gros enjeu sur les financements que les pays du Nord sont capables de mobiliser.
Alors bien sûr, dans l'idée
ça se traduit comme ça, la solidarité,
dans
finalement.
Dans l'idée de justice climatique, il y a effectivement l'idée d'une répartition équitable des, disons des émissions, pour aller vite. Mais il y a aussi surtout l'idée des coûts et des transferts du Nord vers le Sud. Transfert de technologie, aide à l'adaptation, bien sûr.
Gilles Budge, comment est-ce que vous réagissez à cette analyse, vous qui êtes au quotidien avec les populations?
Tout à fait. Bon, le problème sera toujours aussi la mise en œuvre. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup de la séquestration du carbone, par exemple. Alors, le grand discours scientifique qu'on entend jusqu'à présent, c'est, bon, il y a des arbres, la forêt amazonienne, les grandes forêts humides, les forêts du Nord, etc., sont capables de séquestrer du carbone. Les forêts sahéliennes, par exemple, non. Bon, ben moi, dans mon labo, il y a des écologistes végétaux qui sont en train de démontrer que les arbres sahéliens peuvent séquestrer du carbone. Donc, là, va y avoir des enjeux et des retours de financement pour pouvoir aider au développement. Donc, il faudrait qu'on s'appuie vraiment sur des choses concrètes, un petit peu basiques, plutôt que rester un petit peu dans les grands discours. Et il faudrait peut-être aussi que les pays fassent des propositions, justement, de choses concrètes. Et dans l'intérêt quand même des populations. Parce que vous parliez effectivement des problèmes de pollution. Je vais vous donner un exemple. Bon, nous, on travaille un petit peu aussi sur ces problèmes-là. Le charbon de bois, c'est un truc terrible qu'on utilise dans les... Mais c'est ce qui permet de faire du feu pour faire cuire les aliments. Ouais. Donc les gens en ont besoin. Mais au niveau pollution, c'est un truc... C'est terrible et catastrophique. Donc il faudrait réfléchir à des alternatives par rapport à ce mode de d'utilisation du charbon, du charbon de bois, etc., pour le bien-être des populations. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment les trucs à la base. Mais il faut qu'on ait la réflexion, y compris à ce niveau-là, et qu'on essaye de trouver des solutions.
Vos échanges, en tout cas, donnent envie d'assister au forum du CNRS. Absolument. Alors, tous les auditeurs, comme nous aussi, d'ailleurs, coincés dans ce studio, ne le peuvent pas. Mais il y a un site internet qui est très bien fait, hein, leforum.cnrs.fr. Merci à tous les deux d'être passés dans C'est pas du vent.
Merci beaucoup.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Let's laugh and cry until we die. If it wasn't for you, I'd be alone. If it wasn't for you, I'd be on my own. Don't wait till I
C'est pas du vent sur RFI. On en a besoin de bonnes nouvelles en ce moment, alors que la pression monte à l'approche de la conférence de Paris sur le climat. Et c'est justement le principe de Spark News. Bonjour Clémentine Sassolas.
Bonjour.
Vous avez piloté l'opération Solutions Co. C'est la nouvelle opération du journalisme des solutions créée par Spark News. Alors comment ça va se passer? C'est le 18 novembre prochain, mercredi.
Exactement, mercredi prochain, en fait, dans 20 médias partout dans le monde, dont les Échos en France, le FT en Angleterre, Handelsblatt en Allemagne, Valeurs Economico au Brésil et d'autres. On trouvera en fait des suppléments dédiés aux solutions business pour le climat. Et en fait, nous, Spark News, on coordonne cette opération. Donc, on a convaincu tous ces journaux de se mobiliser ensemble et de créer Solutions Co. Pour médiatiser vraiment les solutions qui marchent et qui sont déjà en place.
Alors, vous ne pouvez pas citer tous les journaux, mais sur RFI, il faut quand même parler de ceux qui seront en Afrique.
Tout à fait. Donc, en Afrique, on a Business Day au Ghana. Également le magazine panafricain African Business. Donc on couvre une grande partie de l'Afrique avec ça. Et également l'économiste du Maroc qui participe à cette opération.
Et puis vous avez aussi des journaux en Russie,
en Inde, au Brésil.
Alors, le principe c'est que vous avez produit des articles. Et vous avez demandé aussi aux journalistes des différents journaux d'en produire, c'est ça ?
Voilà, exactement. Chez Spark News, on a produit en fait une douzaine d'articles et chaque média produit lui aussi 3 articles. et on met tout en commun et donc ça fait un pot commun en fait d'une cinquantaine de solutions et chacun réalise son supplément comme il l'entend en proposant en fait au lecteur les solutions qu'il a envie de mettre en avant.
Voilà, ces 20 journaux publient un cahier spécial le même jour dans le monde, c'est quand même une belle opération. Alors donnez-nous quelques exemples justement de solutions intéressantes et qui pourraient être dupliquées.
Par exemple, on a au Mexique un entrepreneur qui fabrique du bioplastique à partir de noyaux d'avocat. Donc on est vraiment complètement dans l'économie circulaire et c'est quelque chose qui peut être appliqué à beaucoup d'industries différentes. Dans le domaine de l'accès à l'énergie, un entrepreneur anglais fabrique en fait une lampe qui marche sans panneau solaire et sans batterie. Simplement en fait avec le système de la gravité où on accroche un sac de sable qui tombe et qui fait actionner une dynamo comme un coucou en fait et qui produit de l'électricité comme ça. C'est encore le cas d'un polytechnicien français qui a inventé les radiateurs numériques parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a 1% de l'électricité dans le monde qui est utilisée en fait pour refroidir les data centers. Donc tout ce qu'on utilise dès qu'on fait des films en 3D, etc. Et c'est une croissance énorme sur ce marché-là. Et il s'est dit, plutôt que d'utiliser l'électricité pour refroidir ces data centers, est-ce qu'on peut pas simplement capter cette chaleur pour chauffer les gens? Et donc, il a développé un radiateur numérique où il loue en fait la puissance de calcul qui est faite dans le radiateur directement chez les gens. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de solutions très concrètes et qui peuvent être répliquées, inspirées d'autres gens et qui ont besoin de s'amplifier pour répondre au changement climatique.
Alors, il y a une entreprise aussi qui fabrique des biodigesteurs que l'on peut... Alors, les biodigesteurs, c'est quelque chose que l'on connaît bien en Afrique, mais là, on peut les installer sur place, et même quand c'est de fortes dimensions.
Oui, voilà. Par exemple, notamment dans des universités, dans des hôpitaux, c'est une entreprise anglaise, en fait, et on installe ces biodigesteurs qui sont sous forme de conteneurs, et donc, à partir des déchets organiques produits sur place, chaque site peut produire sa propre électricité et être, du coup, autonome en électricité grâce à cette solution.
Est-ce qu'il y a un site qui recense toutes ces initiatives ?
Bien sûr, donc c'est solutionsandco.org et on peut trouver effectivement tous ces projets qui sont mis en ligne.
Eh bien, on ira voir et puis on mettra évidemment le lien sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Merci Clémentine Sassola, merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.